I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, pour cet épisode, je ne suis pas toute seule et ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'épisode avec des gens et je crois que c'est la première fois que je fais un épisode avec que des hommes. Des hommes qui sont mes amis et des hommes qui ont beaucoup de choses à nous raconter et beaucoup de questions auxquelles répondre ce soir, puisque dans cet épisode, ils vont répondre aux questions que les femmes n'osent jamais poser aux hommes. Il y a des questions, ça se voit les filles, vous avez vécu des trucs pas très sympas, donc on va essayer de parler de ça ce soir avec eux. À côté de moi, il y a Hugo, très bel homme, mais oh, vous avez pas les images malheureusement, oh, c'est dommage. Il se présentera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais en tout cas, Hugo, t'as quel âge, Hugo ? S'il te plaît, rappelle-le-nous.
J'ai 38 ans.
Ok, 38 ans, voilà. Il a de quoi vous raconter. Et Julien, très bel homme aussi, avec une nouvelle coiffure ce soir, mais vous ne la voyez pas non plus, mais elle est très belle. Julien, tu peux nous dire aussi ton âge ?
39 ans.
39 ans. Voilà, 38-39, moi, pour rappel, j'ai 28 ans. Ils ont 10 ans de plus derrière eux. Beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes, je pense. J'ai fait une petite urne avec des questions. Il y a, je pense, 10 questions que vous m'avez posées via Instagram qui sont du coup pour eux. Julien, une petite main innocente va commencer avec la première question. Et je vous ai mis un buzzer que je vais faire fonctionner tout de suite. Si jamais je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, je buzz. Si jamais je dois me dédouaner de vos réponses, je le ferai aussi. Je ne suis pas responsable de ce qu'ils vont énoncer et de la façon dont ils vont parler ce soir. Donc, première question. Mais oui, Hugo, vas-y, qu'est-ce que tu as à me dire ?
C'est quoi, pas être d'accord ?
Pas être d'accord, c'est peut-être avoir des propos qui ne seraient pas adaptés, selon moi, à un discours qui peut être misogyne, même sans qu'on s'en rende compte. Mais je sais que vous n'êtes pas comme ça. Parce qu'on a déjà beaucoup eu des conversations assez longues quand on était à la réunion ensemble. Et même si parfois je ne suis pas d'accord, ce que j'aime bien avec vous, c'est que vous développez vos réponses et que vous êtes ouverts aussi. Sinon, je ne vous aurais pas invité déjà. Parce que deux hommes hétérosexuels peuvent dire beaucoup de bêtises, mais ce n'est pas votre cas, donc ça va. Bon, tu as la première question. Julien, tu te lances ?
Alors, première question. As-tu aussi des complexes ? Une pression sur le physique ?
J'aime bien cette question déjà, parce qu'on n'en parle pas souvent des complexes masculins.
Moi, c'est propre à moi parce que, alors c'était dû à mes origines, mais j'ai une petite bosse sur le nez. Donc longtemps, ça a été un complexe. Et du coup, en fait, bah, j'osais pas trop, j'en parlais pas trop, mais au bout d'un moment, j'ai su accepter cette différence parce qu'on m'a, quand je commençais un peu à en parler, il y avait toujours des retours comme quoi ça faisait partie de ma personnalité et que ça apportait quelque chose, du caractère à ma personne. Donc au final, j'ai su vivre avec et maintenant, c'est même plus du tout un complexe. C'est peut-être même une petite forme de différence en plus.
Mais il y a beaucoup d'acteurs, même d'artistes de façon générale, qui ont ce nez un petit peu soit proéminent, soit bossu. Et en fait, c'est que des hommes qu'on trouve hyper charismatiques aujourd'hui, je trouve. Par exemple, il y a qui comment il s'appelle
hein, bah déjà, il y a Vincent Cassel, par exemple, qui voilà. A quand même une tête assez marquée. Après, je ne dis pas que je suis...
Vincent Cassel pas...
Oui, c'est moi. Non, mais c'est vrai qu'on peut me dire, pas au-delà que j'ai une gueule, mais c'est vrai que ça peut faire partie de mon personnage.
Et... Ouais, complètement. Ne l'enlève pas.
Ta gueule, d'ailleurs.
Pourquoi ?
Merci. Gratuit. Totalement gratuit. Oui, alors son meilleur ami.
Ah oui, c'est ce que je vous ai pas précisé. C'est que Hugo et Julien sont meilleurs amis. Et je sais pas si ça a son importance, mais je pense qu'au moins tous les deux savent peut-être les réponses que les autres vont répondre. Mais en même temps, je pense qu'il y a certains sujets que vous avez peut-être jamais abordés ensemble. Et c'est ça qui est cool aussi. Est-ce que vous avez déjà même parlé de vos complexes ? Mais vas-y, Hugo, réponds.
Bah, en vrai, le fait qu'on soit meilleurs amis, c'est qu'on parle énormément. Donc on échange souvent sur plein de sujets et en fait le fait d'avoir quelqu'un à qui pouvoir parler, souvent ça te permet aussi d'avoir un reflet mais différent de celui que tu as dans le miroir et ça permet aussi de te poser et d'introspecter un peu. Et c'est ce qu'on fait souvent avec Julien parce que bah, on a une capacité à se remettre en question. Et souvent, les choses qu'on ne voit pas nous-mêmes vont être mises en avant par l'autre, par des remarques ou des mises en situation. Et je trouve que c'est une vraie richesse.
Mais alors, est-ce que tu as des complexes ? Parce que là, tu as oublié la question, tu l'as... Mais allez, c'était très
long. C'était la question de Julien, à la base.
C'est vrai, c'est vrai. Mais non, c'est une question à chaque fois pour vous deux, parce que c'est ça aussi l'intérêt.
Alors en fait, moi, j'ai aussi un nez qui parle de lui-même, mais on va dire que ça m'a pas autant complexé que Julien à l'époque. Moi, c'est plutôt que j'ai eu des cheveux blancs très tôt. Et honnêtement, ça te sépare très vite des autres personnes,
très tôt,
en tout cas des autres garçons. Début vingtaine.
Début vingtaine, ok.
Début vingtaine. Alors, mon père a eu les cheveux blancs aussi tôt. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est tout. J'ai perdu au tirage. et en fait, c'était très léger au départ. Donc, c'était soit les tempes ou quelques mèches sur le devant. Donc, ça passe inaperçu. Au début, ça fait rire, etc. Et il y a un jour, on faisait un... Je ne sais pas si tu as connu... c'était le début des applications de rencontres.
J'allais venir.
Est-ce que tu te souviens du nom de l'application ?
Moi, je connais. Moi, c'est Smithers.
C'était Smithers. Ça te parle ou pas ?
Ça ne me parle pas du tout, je dois
c'est
être trop jeune.
C'est l'application rencontre de vieux, voilà, c'est ça.
Bah, c'était l'époque.
Et en fait, le concept, c'était trois filles, trois garçons, potes entre eux, font un rencard style blind date, tu vois. Donc, on se retrouvait dans un endroit. Le bar, en fait, tu payais un acompte qui te donnait droit à une conso et le bar était choisi par l'application. Donc, on se retrouve dans Paris et tout avec Julien et un autre gars à l'époque qui s'appelle Tibal, big up. Et on rencontre ces trois filles, donc on les avait jamais vues avant, il n'y avait pas de profil photo, donc tu sais pas à quoi t'attendre. Et puis on passe une très bonne soirée, jusqu'à un moment où, petite réflexion, c'est genre « Ah, toi, tu serais pas mal, dommage que t'aies des cheveux blancs, tu vois. »
Et
du coup, tu te dis jusqu'à maintenant, ça n'avait jamais été un problème ou ça n'avait jamais été relevé dans ce sens-là, mais tu sens que potentiellement, ça devenait un problème, ou en tout cas, j'étais catalogué dans une certaine catégorie de personnes. Et peut-être que derrière, ça a développé un complexe où je me sentais plus vieux que mon âge. Alors avec les années et tout ça, les cheveux blancs ont continué à apparaître. Mais on m'a aussi beaucoup rassuré sur le fait que je faisais pas mon âge malgré tout. Et je vais dire quelque chose qui va peut-être en faire sourire ou pleurer plus d'un, mais vaut mieux avoir des cheveux blancs que pas de cheveux.
Ah oui, ça je confirme. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça m'avait marqué parce que Hugo prend les choses relativement bien, enfin, quoi qu'on puisse faire comme réflexion. Et du coup, ça m'avait marqué à quel point cette réflexion qui était complètement anodine pour la personne qui a prononcé ces mots, et ça l'avait marqué, et je me souviens que ça l'avait choqué, parce qu'à chaque fois, il m'en reparlait, « Ouais, mes cheveux blancs, mes cheveux blancs, mais franchement, on s'en fout. » Et au contraire, ça donnait, je vais le redire, mais du caractère, parce que c'était un beau poivre et sel, ça commençait à être un beau poivre et sel. Bon, c'était un peu trop, enfin, pour lui, c'est trop jeune, mais je trouvais que ça apportait quelque chose, et il n'arrivait pas, et ça l'a complexé pour longtemps, et cette chose qui était si... anodine, et ben puisse autant le complexer, enfin, j'arrivais pas à comprendre pourquoi.
Alors pour les jeunes auditeurs qui nous écoutent, ils auront pas la ref, mais maintenant on m'appelle Monsieur Sheffield du Nounou d'Enfer. Donc voilà.
En vrai, moi je crois que je t'ai toujours connu avec tes cheveux blancs, il me semble, et du coup forcément moi j'ai toujours trouvé, en vrai, petite fleur que je te donne, mais j'ai toujours trouvé que c'était sexy, ça a jamais été un point où je me suis dit oh là là il a des cheveux blancs, enfin j'aurais pas pris ça comme un complexe de ta part. Mais je peux comprendre que plus jeune, peut-être, effectivement, ça a pu te complexer. Mais du coup, aujourd'hui, plus de complexe ? Vous pouvez dire aujourd'hui
non,
que vous avez plus de complexe ?
Alors moi, j'ai plus du tout aucun complexe avec ça parce que j'ai su le mettre à mon profit. Puis maintenant, je suis complètement l'aise avec ça, donc c'est plus, même plus un problème.
Maintenant, il cherche les truffes dans la forêt.
Attends, tu qu'on parle ? Ok, pas de soucis. Je me souviens que tu étais tellement tout au complexe que je me souviens d'une anecdote en Australie où
oui,
monsieur...
Oui, j'avais fait raconter, je sais.
T'es tellement complexé que tu dis « Ouais, il faut absolument que je fasse quelque chose. » Le mec revient avec une teinture, mais horrible. Oh, il a fait une teinture. Alors déjà, un mec, il s'est pas teint les cheveux de base. Il revient, c'était limite à cajou. Je fais « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» Et c'était pas en adéquation du tout avec sa barbe. Alors, ça faisait les cheveux un peu clairs. Et la barbe toute noire, c'était horrible. Donc,
petite erreur de parcours. Mais comme quoi, c'est intéressant comme sujet parce que ça veut dire que les complexes poussent souvent les gens à vouloir les effacer ou les compenser. Et c'est pour ça qu'on parlait du nez. Le nez, on va dire chez les hommes, c'est peut-être moins complexe que chez les femmes souvent. On voit qu'il y a quand même peut-être plus de rhinoplastie chez les femmes. Ou en tout cas, peut-être qu'elles vont plus souvent vers, vers l'acte de passer le cap. Nous, on va peut-être le digérer ou vivre avec.
Ou peut-être que la société est moins dure avec vous aussi, en réalité, je pense.
Mais dans tous les cas, on se dirige peut-être moins vers des opérations. Ça,
peut-être parce qu'on est plus chochotte aussi. Je sais pas.
Ouais, peut-être aussi. Peut-être. Moi, c'est vrai, ça, c'est... je me suis toujours dit, je ferai jamais d'opérations qui changent mon physique, malgré tout, tu vois. Je préfère toujours travailler au naturel. Mais... Genre, si je m'aime pas, je vais tout faire pour y arriver naturellement jusqu'à ce que je puisse plus le faire, mais après, j'accepterai, quoi.
Mais c'est marrant parce que vous avez parlé d'un aspect du visage, là où je crois que les filles, majoritairement, vont toujours parler de leur corps, donc de leurs cuisses, de leurs hanches, de leur ventre. Bon, oui, effectivement, si elles ont un nez qui ne leur plaît pas, elles vont parler forcément de leur nez, mais je crois que c'est pas du tout ce qui vient en premier. Donc, en fait, à aucun moment, vous avez parlé de votre corps parce que... pareil, vous êtes OK ou tout du moins vous acceptez et vous en foutez.
Ça dépend, tu vois, genre avec Julien, on est un peu les deux extrêmes là-dessus. Je vais m'expliquer, il va comprendre où est-ce que je veux en venir. C'est que moi, très jeune, j'ai été complexé par mon corps parce que j'étais en surpoids et je le vivais très mal de par l'époque que c'était. C'est le collège, tout ça, les enfants sont pas forcément très malins entre eux. D'ailleurs, avec Julien, on s'est rencontrés à cette époque-là et ça nous a pas empêchés de devenir très bons amis et tout. Et...
Laurel et Hardy.
et du coup j'ai longtemps été frustré par ça parce que petit, tu sais, les femmes tu rentres pas dans les codes, tu rentres pas dans les personnes d'intérêt à cette époque-là, surtout que c'est le début, tu sais, où tu découvres les relations hommes-femmes, donc toi tu te réfugies forcément de manière logique dans tout ce qui est autre que les femmes, c'est-à-dire que les jeux, c'est comme si tu refusais de grandir sur cette partie-là parce que t'y as pas accès, tu vois. On te met de côté, je me souviendrai toujours d'une histoire où on était dans la cour de récré. Donc je traînais avec des garçons qui n'avaient pas ce problème-là. Donc il y avait Julien, il y avait un autre copain qui s'appelait Clément à l'époque. Et on avait un groupe, tu vois, avec des filles et tout. Et à l'époque, ce qui se faisait, c'était de noter les personnes, tu vois, et notamment les garçons.
Je pense que ça se fait encore.
Et ça doit se faire encore, bien sûr, mais c'est pour vous dire que, en fait, ne vous arrêtez pas là-dessus. Donc moi, ça enchaînait, tu vois, donc « Ah, Julien, ah, tu lui mets combien ? Ah, 18 sur 20, trop bien. Ah, Clément, ah, 18 sur 20. Et toi ? Ah, bah Hugo, 10, t'es gentil. » Tu vois, et c'est ce genre de petites phrases, je pense qu'il y a des gens qui vont pouvoir s'identifier dans ces propos. Et il ne faut pas rester là-dessus, parce qu'en fait, le physique, ça va, ça vient. Et après, je me suis beaucoup lancé dans le sport. La puberté m'a aidé aussi, j'ai grandi d'un coup, donc je me suis affiné. Mais pendant un certain temps, j'étais omnubilé par ça. Et j'en suis devenu limite méchant avec les femmes quand j'ai repris du poil de la bête physiquement. J'ai été très dur avec elles. Parce que c'était comme si je me vengeais. Je me disais, ah, tiens, maintenant vous vous intéressez à moi, maintenant que je rentre dans les standards. Et bah c'était, ouais, mais en fait, c'est vous qui avez plus le niveau maintenant. Tu vois.
Ouais, j'étais témoin.
Et c'était très dur.
J'étais un peu aussi son garde-fou, hein, je pense qu'il pourrait le dire. Mais bien sûr, je disais, ouais, par contre, arrête là, t'es un peu trop violent. Et puis, il ne faut pas arrêter de tout en voir te venger sur le passé, tu vois. T'as grandi, t'as évolué, maintenant passe à autre chose, tu vois.
Bon, on a pas mal répondu. En vrai, je pense qu'on pourrait faire un sujet épisode de podcast que autour des complexes des hommes, parce qu'il y a beaucoup déjà de choses à dire. Mais merci pour votre réponse. C'était très bien, mais on va passer une prochaine, d'accord ? Hugo, la
attention,
main innocente.
Le tirage. C'est comme Motus. Oh,
Maman Motus.
Pourquoi vous n'osez jamais pleurer ? Très bonne question. Pourquoi on n'ose jamais pleurer ? Alors. Déjà, peut-être qu'il faudrait reformuler la question. Peut-être qu'on n'ose jamais pleurer devant vous.
Oui, ou après par...
C'est vrai que c'est rare. Pour moi, c'est assez rare de pleurer. Il faut vraiment que je me mette dans un mood, une ambiance, et que je ressasse. Tu vois ? Pour me pousser à bout, c'est très difficile. Moi, je pense qu'avec Julien, on s'accorde là-dessus. Je pense que ça vient aussi de l'éducation, j'imagine. En tout cas, peut-être la nôtre. Moi, j'ai toujours eu l'image... d'un père, tu sais, froid, qui monte pas trop ses émotions, etc. Donc, est-ce que en tant qu'enfant, on est un peu aussi une éponge et on ramasse tout ce qu'on observe, on calque, on fait du mimétisme en fait. Et c'est vrai qu'après, dans mes relations que j'ai pu avoir avec mes différentes partenaires à l'époque, donc ça remonte bien longtemps, je pouvais avoir des excès d'émotions, pleurer, mais je trouve qu'avec le temps, en fait, à force on cherche à enfouir ces émotions qui sont finalement, à mon sens, handicapantes.
Moi, je pense aussi qu'il y a un diktat de « Ah, si tu pleures, alors désolé, hein, mais si tu pleures, t'es pas un homme ou t'es une femmelette, enfin tout ce qu'on peut dire comme bêtise. » Je pense qu'il faut un peu oublier ce Enfin, toutes ces idées reçues, c'est si tu as besoin de pleurer pour extérioriser des émotions ou un trop-plein, il faut le faire. Parce que ça peut témoigner auprès de ton entourage des choses qui n'avaient même pas idée. Par exemple, moi, puis c'est encore Hugo que ça concerne d'ailleurs, un jour il m'a dit des choses et en fait, ça a été tellement un trop-plein que je me suis mis à pleurer et même lui n'en revenait pas. Et si moi, j'arrivais à en pleurer, c'est que vraiment, c'est que c'était trop. Et des choses qu'il n'avait peut-être pas forcément vues ou conscience, mais le fait de lâcher les vannes, ça lui a montré et a fait prendre conscience de certaines choses. Donc c'est pour ça que je dis, il ne faut pas pleurer pour tout et rien. Il faut juste, faut pleurer pour ci ou pour ça. C'est, si tu as besoin d'évacuer d'une manière ou d'une autre, juste fais-le parce que ça peut aussi te faire du bien et faire comprendre aussi à certaines personnes.
Oui, je suis d'accord, ça fait du bien. Après, je pense qu'on a tous une soupape avec un seuil de déclenchement différent selon les personnes. Il y en a qui vont accumuler plus longtemps que d'autres.
Tu peux être aussi plus émotif.
Plus vite. Et je ne sais pas s'il y a une meilleure façon ou une moins bonne façon. Peut-être que ceux qui accumulent longtemps et qui lâchent tout, peut-être que finalement, tout ce qu'ils accumulent au fond d'eux, ça les détruit un peu de l'intérieur. Tu sais, on parle des ulcères, des trucs un peu chiants. Et ceux, par contre, qui ouvre régulièrement la soupape, peut-être que d'un point de vue santé, c'est mieux. Je ne sais pas à quel point ça peut être lié. Mais...
Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je trouve que les femmes, de façon générale, ne jugent pas un homme qui pleure. Donc en fait, je pense que c'est les hommes entre eux qui vont avoir tendance à plus se juger sur ça et à plus être dur et avoir un égo qui parle.
Ah, c'est sûr que les mecs entre eux, ils sont intransigeants là-dessus. C'est genre, ouais, moi, je pleure pas, moi, je ma fierté. Mais des fois, c'est tellement ridicule parce que ça sert à rien de garder tout ça. C'est que accumuler un peu de frustration. Moi, je trouve ça pas forcément nécessaire.
Donc, les garçons peuvent pleurer.
Exact.
Troisième question, tu te relances ?
Alors, pourquoi vous faites du love bombing ? Pourquoi commencer une relation si on n'est pas prêt à s'engager ?
Ça, effectivement, ça lance un sujet intéressant.
Mais là, il faut 2 heures, hein. Interro surprise.
J'ai juste un petit truc à rajouter, c'est que pour ceux qui n'ont pas la définition du love bombing, parce qu'il y en a peut-être qui ne l'ont pas, c'est une intense démonstration d'amour ou d'affection de la part d'une personne envers une autre personne. Donc c'est donner beaucoup pour finalement, pas forcément grand chose.
Okay. J'adore cette question parce que c'est un sujet avec Julien qu'on aborde énormément. Parce que je vais te laisser commencer à répondre.
Non, je t'en prie. Okay. Je t'en prie, vas-y. Vas-y.
Bon, moi, je suis un célibataire endurci, ce qui veut dire que je n'ai pas forcément envie de construire quelque chose parce que je n'en éprouve pas le besoin. Par contre, je ne m'empêche pas de fréquenter des femmes parce que leur compagnie me plaît, tu vois. Non, mais je veux dire, je passe des bons moments avec elles, des moments de qualité, et justement, pour que ces moments soient de qualité, je vois pas en quoi c'est incompatible de se dire on se voit de manière légère, c'est-à-dire on s'engage pas forcément, mais je vois pas pourquoi ça devrait impliquer forcément que je donne des signes d'un enfoiré fini, tu vois. C'est-à-dire que si la personne vient me voir pour passer du temps avec moi, c'est-à-dire qu'on peut faire des activités, hein, c'est pas juste tu viens chez moi, on se câline et tu t'en vas, c'est vraiment... On se rejoint, on se fait un resto, on va dans un bar, on peut se faire un ciné, on finit à la maison et on passe un bon moment. Et pendant ce moment qui est un peu une bulle sur une journée ou je sais pas sur un week-end, je vais être attentionné envers elle, je vais la faire se sentir bien, etc. Sans pour autant lui déclarer ma flamme. C'est juste que elle mérite que je me comporte bien. Elle vient me voir. Si elle vient me voir pour se prendre une patate, ça sert à rien. Enfin, tu vois. Pour moi, le terme love bombing, c'est une chimère qui a été inventée par des filles qui n'arrivent pas à se contenter de ce qu'on leur donne et qui veulent voir des signes partout. C'est-à-dire que la vie, c'est pas noir ou blanc.
Il peut y avoir des hommes aussi, hein. Attention.
Ah oui, bien sûr.
Juste parce que je voulais le faire.
Non, mais dans mon cas, comme je parle en tant qu'hétéro, je n'ai affaire qu'à des femmes en général. Et c'est vrai que souvent... quand on démarre des relations, alors que ce soit via des applications ou quoi, c'est tout de suite ah non mais t'inquiète, moi je veux pas me poser et tout, donc je dis moi aussi, ça tombe bien. Et puis 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, tu te vois régulièrement, parce que tu passes du bon temps, c'est tout de suite tu penses pas que toi et moi
t'es jamais
bien,
tombé sur
fait,
des
etc.
filles qui vraiment ne voulaient pas du
ah,
tout
si,
comme
si,
toi
bien sûr. Okay. Et qu'en général je tombe dessus, Et ça dure, en fait, parce qu'on se voit et je sais qu'en fait, j'ai aucun compte à rendre et qu'elle n'en a pas à me rendre non plus. Mais quand on se voit, on passe un moment à fond. Alors que les autres personnes qui, au final, tu sens un peu le truc venir, tu vois qu'elle commence à s'attacher et tout alors que tu n'as rien promis, et bah, ça développe en fait une réaction chez nous où on se dit « mince, va falloir que je fasse attention à ce que je fais ».
Mais toi, tu n'as jamais eu ce truc envers quelqu'un où tu t'es de base dit « je ne veux rien » et puis au final, être déjà quand même tombé dedans parce que tu t'es attaché ? Ça t'est jamais arrivé que toi aussi, finalement, tu, même si de base, tu as des idéaux et que tu vois les choses de cette façon, bah, ça a très bien pu un jour dévier et te dire « en fait, j'aime trop cette personne et peut-être moi aussi, je vais avoir ce rôle en fait, de mec qui, de base, dit qu'il veut rien de sérieux et puis trois semaines après... Et hyper love, tu vois.
Bah maintenant qu'on en parle, Julien, je voulais dire quelque chose.
Merde.
Non, je rigole.
C'est le moment. Non, mais après, juste pour faire l'avocat du diable de petites secondes, c'est que on peut comprendre la réaction qui est normale vis-à-vis de... Bah, là, on parle des femmes. Légitimement, elles peuvent se dire, bah, OK, il y a tous les signes apparents comme quoi bah, on est en relation, ou une idylle est en train de se créer. Donc, on ne peut pas les blâmer. Mais c'est vrai que pour certains, parfois, on est quand même, on est quand même très précautionneux. On leur dit bien à l'avance, attention, c'est pas ce que tu crois, je te le dis, ok, on passe des bons moments, mais t'attends rien avec moi parce que je sais ce que je suis, machin. Et elles ont, en fait, je pense qu'il y a un petit peu comme un déni. Elles font, ouais, t'inquiète, moi aussi, c'est pareil. Après, elles sont mordues. Et après, nous, bah, d'ailleurs, on doit bah, jongler avec ça et se dire, merde, pourtant, j'ai pris la peine de faire tout ce qu'il fallait pour la prévenir, tous les red flags, pas les red flags, mais tout la prévenir pour dire qu'il n'y aurait rien. Mais après, on peut rien si la personne n'a pas envie de jouer bah, les règles, jouer le jeu. Bah, c'est compliqué d'après de faire retour en arrière. Et nous, bah, soit c'est là où on passe, entre guillemets, pour les enfoirés, parce qu'on doit redoubler d'efforts pour... Bah, qu'elle comprenne que ça ne sera pas plus loin, donc forcément on passe pour un enculé, parce qu'elle n'a pas ce qu'elle veut, et alors que dès le début c'était clair pourtant qu'il n'y aurait pas plus que des bons moments. Et parfois les filles ne se contentent pas de ça, ou les mecs, peu importe, la personne en face ne se contente pas, et donc bah, si elle n'accepte pas, bah, après bah, elle dit que c'est pas cool et qu'on est des salauds et machin.
Et en plus si jamais elles disent bah, écoute moi je m'attache, je veux plus, etc., donc je pense qu'il faut qu'on arrête de se voir, bah nous des fois on dit juste bah ok et ça va pas encore, c'est genre ah bah ouais mais en fait tu t'en foutais, bah non c'est pas ça, c'est juste que ce n'était pas le contrat,
oui c'était pas tu en accord avec ce que toi t'as envie, mais je pars juste du principe qu'en fait il faut vraiment communiquer et j'adore le dire et j'ai du mal à le faire moi dans ma vie perso, mais quand même il faut se dire les choses et surtout bah, pour les hommes qui peuvent nous écouter et les femmes en réalité ça change rien, juste dire que quand tu sais que tu ne veux rien, malgré le fait que la personne elle puisse avoir toutes les qualités du monde et tout, c'est qu'en fait, il ne faut pas penser que c'est vous le problème. C'est juste que c'est vraiment la personne qui décide qu'aujourd'hui, elle ne veut pas être en couple. Vous ne pourrez rien y changer, en fait. Donc, c'est leur choix. Et si vous n'êtes pas capable de l'accepter, n'y allez juste pas. Parce que c'est vrai que, comme Julien il l'a dit, des fois, c'est juste, tu es dans le déni. Tu penses que tu vas pouvoir faire la meuf ou le mec qui s'en fout. Mais en réalité, c'est pas vrai. Donc voilà, faites attention à vous.
Ou tu crois peut-être aussi que tu vas être la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire la femme qui va différencier ou l'homme qui va
sauveur,
le changer. Tu vois, voilà, ça, c'est
un rôle du sauveur.
Tu penses que, ah ouais, mais il a fait ça avec toutes les autres, mais moi, ça va être différent. Alors qu'en fait, non. Et c'est vrai que, Tissa, je suis d'accord avec toi, c'est la communication, c'est important. Il faut tout de suite le dire d'entrée de jeu parce que on n'est pas là pour perdre du temps aux gens, en fait. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans la recherche de construire, de faire quelque chose. Moi, j'ai toujours été clair. Je dis, bah, écoute, si c'est la construction que tu cherches, c'est pas moi. Par contre, si en ce moment, tu es en mode détente, tu veux passer des bons moments, sache que ce sera cool et tu te sentiras pas maltraité. Tu vas être respecté quand même. Enfin, tu vois, c'est pas... en plus, on parle vraiment de relations... c'est pas des relations sans lendemain. Ça peut être des relations longues, mais qui n'aboutiront pas à la création d'une famille ou d'un ménage ou tout ce que tu veux. Mais par contre, ce sera toujours dans le respect. Ça peut parfois être exclusif, tu vois. Donc en fait, il y a plein de petits jalons qui sont passés. Et j'aime utiliser ce terme de contrat parce que c'est un peu ça. C'est genre, il y a des clauses, tu les respectes. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'en face de toi, tu as un être humain. On n'est pas sur de la relation où tu es en boîte, bourré, tu ramènes quelqu'un chez toi, tu couches ensemble. Et puis après, tu te rappelles que de temps en temps, parce que tu as envie de remettre le couvert. C'est pas ça. C'est vraiment entretenir une relation de confiance, de respect, mais on sait que ça va s'arrêter un jour. Et quand la personne voudra autre chose, tu vois.
Il ne faut pas aussi déprécier ce statut de relation, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas officiellement en couple ou que ça ne s'attend pas sur quelque chose comme on l'entend, basique, on est en couple et tout ça, que ce qui se vit entre les deux n'est pas nul, n'est pas dénué de comment dire, de
ça sentiments. Reste sincère.
Et ouais, donc c'est totalement, des fois ça peut être même certainement parfois même plus sincère certaines relations, parce que c'est que pour des bonnes choses, des bons moments, et le moment est vécu pleinement par les deux parties, alors que certains dans des relations de couple, ça fait 2 années qu'ils sont ensemble, ils sont rincés, genre ils se calculent même pas, ils disent même pas bonjour, au revoir, merci, même un merci des fois dans une relation de 2 ans, c'est même pas présent, alors que là, si c'est ponctuel, je dis un exemple, genre tu la vois toutes les 2 semaines, t'as tellement envie de la voir 2 semaines, ça se passe trop bien, le week-end il est charmé parce que il y a eu un manque, il y a une écoute, il y a une entente, il y a une tolérance en réciproque, et franchement certaines parfois ces relations sont même des fois meilleures en termes de ouais en termes de relations, en termes de sentiments, qu'une une conventionnelle relation de couple attitrée, genre on est ensemble, machin.
Ouais, parce qu'il faut différencier, je pense, le côté occasionnel désiré mutuellement versus le côté quotidien imposé par la relation, tu vois, qui peut vite tourner à la routine, à l'ennui, et tu te sens obligé de faire les choses avec la personne alors que des fois, bah, on est juste off. Mm-mm. Alors que là, les moments off, chacun de son côté, on les perçoit pas. Et comme le dit très justement Julien, quand on se retrouve, c'est que c'est vraiment voulu, ça a été orchestré et on sait qu'on va kiffer, tu vois.
J'ai adoré vos réponses. Je pense qu'elles vont peut-être faire sens dans les oreilles de certains. Parce que c'est vrai que très souvent, en fait, on parle des couples, c'est hyper rangé, en fait. On est hyper... c'est comme ça, il y a des cases qui sont faites et formatées exactement à devoir être dans des cases. Et tous les deux, vous êtes un petit peu en dehors de ces cases-là d'une certaine manière. Et dans le respect, donc c'est génial. On continue ?
Alors, question suivante. Pourquoi les filles extraverties qui aiment sortir, ça vous fait peur ? Alors ça, c'est une très mauvaise question pour moi, parce que ça ne me fait pas du tout peur, en fait.
Oh là là, ça ne lui fait pas peur, attention.
Mais non, au contraire, tu vois, je pense que c'est un espèce d'a priori, ou alors il y a beaucoup d'hommes qui vont avoir des réactions un peu primitives là-dessus, parce que, je sais pas, ça fait peut-être... peur de voir une fille sortir, danser, se faire accoster, draguer. Mais moi, peu de relations que j'ai eues et d'interactions avec les femmes que j'ai pu avoir, je préfère largement une femme qui va assumer ses sorties, ses envies, etc. et qui compte pas sur moi pour la divertir, c'est-à-dire qu'elle a une vie bien remplie. Et au contraire, tu vois, j'aime bien danser, si tu le sais, Ticia. Et en boîte de nuit... je suis souvent attiré par la femme qui attire tous les regards parce qu'elle danse bien, etc. Et ça me gênerait absolument pas, au contraire, que la fille que je fréquente soit un peu comme ça, tu vois, qu'elle sorte souvent. Le seul truc qui peut faire peur, c'est trop de consommation d'alcool, perte de notion de ce qu'elle fait, et auquel cas, tu peux, entre guillemets, envisager le pire. Mais dans tous les cas, je ne suis pas là pour être un garde du corps dans la relation.
Alors, je veux ajouter une chose, parce que là, en fait, ils disent bien extraverti, et je pense qu'il faut un peu dissocier la meuf extravertie et la meuf qui a confiance en elle, tu vois. Parce qu'extraverti, ça peut être aussi un extrême, et ça peut vite faner dans les soirées ou dans les lieux. Il y a des fois des meufs qui sont trop extraverties, c'est genre, ouais, à un moment donné, t'es trop.
C'est quoi, on va poser la question à Ticia. Pour toi, une femme extravertie, c'est quoi ?
Je me suis rendu compte, il n'y a pas longtemps, que la définition d'extraverti et d'introverti, quand on les met en comparaison, c'était pas forcément ce à quoi je pensais. Pour moi, une femme extravertie, c'était quelqu'un qui était très jovial, qui sortait beaucoup. Et une femme introvertie, c'est quelqu'un qui sortait pas. Voilà, limite, c'était ça. Alors qu'en réalité, c'est plus la façon dont tu as besoin de reprendre de l'énergie. Donc les gens extravertis vont avoir tendance à, à avoir besoin d'être avec les gens. Enfin, je crois que c'est un truc comme ça, avoir besoin d'être beaucoup avec les gens. Et puis, les gens introvertis, bah, ils vont reprendre leur énergie en ayant plus des moments de qualité avec eux-mêmes. Mais ça ne veut pas dire que c'est des gens qui ne vont pas parler aux autres, être inclus en soirée. Ça n'a rien à voir. Mais je veux bien la définition, vas-y.
Alors, la définition officielle, personne dont le comportement est tourné vers le monde extérieur qui cherche les échanges avec les autres. C'est assez vaste, en fait.
Ouais,
donc ça peut inclure plein de gens différents, finalement.
Ouais, bah oui.
Pas forcément que des extrêmes.
Non, mais bon, c'est pour ça qu'aussi, il peut y avoir les deux personnalités. Il y a celle que tu parlais qui s'assume et qui n'a pas peur de s'imposer ou qui prend les devants. Mais il y a aussi celle qui s'impose trop et qui, là, qui devient, merveilleuse.
Oui,
trop.
Après, t'as effectivement, je pense que ce qui peut faire peur à certains hommes, c'est que la personne soit tellement sociable, tu sais, qu'elle ait aucune gêne avec les inconnus, enfin, tu sais, qu'elle se fasse facilement, qu'elle connecte facilement, puisqu'il faut être tourné vers l'extérieur, tu vois. Il y a des gens qui y voient souvent, moi par exemple, j'avais une de mes ex, la dernière, qui était très tactile dans sa façon de parler, tu vois, et même avec des inconnus qu'elle pouvait rencontrer dans des bars et tout. Je pense que pour beaucoup de gens, ça pouvait être un problème parce que ils y voyaient peut-être un contact physique qui les pouvait laisser penser à la personne en face qu'elle touchait, qu'il y a un intérêt. Tu vois, donc en fait, tout est toujours sujet à interprétation et ça dépend qui est l'observateur. Moi, en tant qu'observateur, je ne suis pas du tout concerné ni apeuré par ce comportement. Au contraire, je peux pouvoir laisser ma copine ou ma partenaire évoluer librement en soirée. Et ça me dérangera pas du tout.
Mais est-ce que du coup, bon, alors moi je réponds à ta question de tout à l'heure, mais moi je me considère extravertie, mais qui tend à être parfois introvertie parce que je me rends compte, et ça je pense que c'est aussi avec l'âge, que j'ai besoin d'être parfois seule et que j'ai cette envie de me recharger en étant toute seule. Et effectivement, je pense qu'il y a plus un côté de confiance en soi, de réussir à se mettre en avant en société, plutôt que de vraiment être quelqu'un d'extraverti ou introverti. Mais moi, je pense que je suis quand même de la team extraverti, on va pas mentir. Mais je sais pas ce que vous en pensez.
De toi, tu veux
dire ? Oui, de moi. Bah oui, parlez-moi. Moi.
Alors, non, bien sûr, mais moi, de ce que je connais, de ce que j'ai pu voir, ne serait-ce que la Réunion. Alors, si on prend la définition, donc oui, tu es avenant, tu sais venir, aller vers les gens et tu assumes tout ça. Mais je trouve que malgré tout, il y a comme aussi un côté où tu aimes bien te recentrer, bah, ne serait-ce que déjà pour travailler ou pour réfléchir. Ou même quand tu as bouquiné, c'est une phase que tu aimes bien avoir pour indirectement te recentrer. Donc, je ne dirais pas que tu es totalement extraverti, mais je pense que tu es un peu des deux, j'ai envie de dire. Parce que moi, je suis de la team, entre guillemets, introverti. Mais c'est là où je voulais en venir, c'est que introverti ne veut pas dire rabat-joie, relou ou terré dans sa grotte, tu vois.
C'est ça, parce qu'en fait, extraverti, ça a l'air trop stylé, ouais. Et introverti, ça a l'air boring. Ça n'a rien à voir.
C'est juste qu'on a vraiment besoin de nos moments de calme, tant calme, de nos moments de calme pour plein de choses, pour peut-être digérer certaines choses qu'on a vécues ou la journée ou des choses auxquelles on doit prendre une décision, par exemple. Et ça n'empêche pas que parfois on s'ouvre complètement, à une journée qui nous attend avec des potes où on doit vraiment se donner à fond. Ça n'empêche pas. Après, l'avis d'Hugo qui connaît un peu plus, peut-être qu'il diffère.
Non, moi je suis assez d'accord avec Julien. Je pense que tu es quelqu'un d'équilibré. C'est le terme que j'utiliserais.
Oui, je suis très équilibré.
Non, mais sur ce point-là, c'est tu as ton côté. C'est comme quand on nous apprend ça, quand tu fais des formations vente de commerce. Tu as le profil naturel et le profil adapté.
Oh.
Et ouais, pour tous les commerciaux out there.
Non, mais
et en fait,
ce que tu veux dire.
Si tu veux, tu as ton profil que tu vas avoir naturellement dans ton cercle proche ou même toi, tu vois. Et tu as ton profil adapté en public où peut-être tu vas pouvoir faire ressortir quelques penchants, les exacerber un petit peu pour les mettre plus en avant.
Mais ce qui est totalement aussi lié à mon travail ou sur les réseaux sociaux, voilà. Tu as justement besoin de montrer les aspects les plus... les plus cool et ceux que tu as envie de mettre le plus en avant et qu'effectivement tu vas avoir tendance à faire plus rire, à essayer de te mettre plus en valeur pour capter en fait l'attention juste.
Mais encore une fois, je veux réinsister là-dessus, et Julien l'a fait juste avant, c'est il n'y a pas de plus cool entre extraverti et introverti. C'est vraiment deux personnalités différentes, mais qui ont chacune leur raison d'être.
En fait. Et ça ne tient qu'à nous, c'est quelque chose d'hyper personnel.
C'est hyper personnel, ouais.
Bon, les gars, je pense vraiment qu'il y aura deux parties, parce qu'on parle beaucoup, ce sont des pipelettes.
On est des pipelettes.
Est-ce qu'un homme vraiment amoureux ne voit que par sa femme et n'est pas attiré par d'autres? Alors, moi, j'ai envie de te dire, j'ai envie de vous dire, je pense que c'est la définition même de l'amour. Quand on est amoureux, on voit, c'est qu'on est vraiment happé par l'être aimé. Après, je pense que est-ce que c'est pas raisonné, je trouve, quand on est vraiment dans cet état-là. Après, c'est un peu une question piège, j'avoue.
Il est dégoûté de l'avoir tiré, là. Hugo, aide-moi, Hugo.
Ouais, non. Par contre, c'est vrai que ça m'est arrivé et je trouve cet état vraiment bien parce que on a ce côté où tout est rose, tout est beau, c'est super. Mais c'est un côté qui fait peur parce que à titre d'exemple, c'est que moi, je suis beaucoup dans le contrôle et je me suis surpris à ne rien contrôler dans cet état-là. Donc, ça a un effet un peu pervers, c'est que j'aime à la fois ce sentiment, mais je ne veux pas le retrouver parce que j'ai l'impression de ne pas gérer et je me suis trouvé dans des situations que je ne gérais pas du tout et je ne montrais pas du tout ma vraie personne. Et des fois, j'avais des réactions qui étaient complètement l'opposé de ce que je suis. Et bon, c'était pas que des bonnes réactions en plus. Et donc, c'est pour ça que c'est très bien. Mais je suis pas forcément.
Tu feras attention à ton bracelet électronique d'ailleurs.
Ils vont les sortir pour l'interview.
En fait, on est dans une cellule, là, on vous a pas dit. Mais...
Oui, je pense que oui. Mais à bien des égards, je trouve que ça peut être réducteur. Je pense que ça peut être dangereux d'être trop fan de sa femme. Et je pense qu'on peut en perdre un peu la lucidité parfois. Même le jugement vis-à-vis de sa propre femme. Parce que si on est vraiment love, 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 elle peut dire tout n'importe quoi et faire tout n'importe quoi. Et on va pas pouvoir juger, en fait. Des fois des débordements, des mauvaises décisions, des mauvaises actions.
Bon, après, ce que tu as dit, ça vaut également dans l'autre sens. Hein. Une femme qui est éperdument amoureuse de son homme va pouvoir tolérer des choses peut-être qu'elle ne devrait pas tolérer. Hein. Surtout si en face, tu as une personne un peu manipulatrice ou des choses comme ça. Par contre, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Tu as donc admis ou avoué à demi-mot que tu étais dans le contrôle. Moi, je le sais, parce que je te connais. Et justement, le fait... de vivre l'amour comme un sentiment si puissant que tu perdais le contrôle, tu as dit quelque chose où moi j'aurais pensé que la réaction aurait été l'inverse, c'est comme tu ne contrôlais plus rien, entre guillemets moins, est-ce que c'est pas plutôt ta vraie personnalité qui est ressortie et pas celle que tu essayes de montrer aux gens?
Alors là, pas du tout. Non, c'est juste, non, justement. C'est que, donc à titre d'exemple, c'est que quand je suis vraiment dans cet état-là, où je ne contrôle pas, c'est que parfois, il y a des réactions que je vais overreact, ou en faire des caisses, parce que j'ai tellement peur de décevoir ou d'avoir pas été à la hauteur vis-à-vis de la personne aimée, que je vais vite me mettre une pression, ou vite avoir des réactions démesurées. Un exemple tout bête, par exemple... Imagine-toi, elle vient de passer l'aspirateur et j'ai fait tomber 3 miettes. Oh mince, elle fait, tu vois, genre, elle vient de repasser l'aspirateur.
Tu t'automais la pression.
Ouais, c'est juste, comme je vois que, enfin, quand t'es amoureux, tu vois que par la personne, tu vois, genre en face, et ben des fois, tu veux trop son adoubement, tu vois, que, genre,
sa validation.
Ouais, que tu veux pas décevoir, tu veux pas être amoindri à ses yeux.
Mais donc, quand vous êtes amoureux, vous ne regardez pas les autres femmes dans la rue, parce qu'il y a ça aussi, parce que franchement je suis assez étonnée sur ce coup là parce que moi la première je pense que je regarderais les hommes aussi.
J'ai pas répondu encore.
C'est vrai, t'as pas encore répondu. Disons que je pense qu'on peut regarder les autres et être attiré sans y aller, si on est dans une relation en tout cas où on est exclusif,
une relation conventionnelle,
exclusive, etc. Mais je pense que, enfin, moi je sais que même quand je suis en crush ou quoi sur un mec, parce que je ne suis pas en couple, mais Enfin, je sais que si même je l'étais, je pense que je regarderais quand même sans jamais y aller, quoi. Mais je regarde.
Je dis juste justement par rapport à répondre à la question. Alors effectivement, moi, donc j'étais donc éperdu amoureux et donc c'était encore avec ce larron là.
C'était Hugo. Pas deux mois.
Hein. Secrètement. Et en fait, nous étions à l'étranger. Et ben pour te dire. Il y avait des filles qui tournaient autour où il y avait des possibilités, mais j'étais tellement amoureux que ça fermait complètement toutes les portes. Et Hugo, tu peux le dire, est-ce que c'était le cas ou pas? Est-ce que c'était vrai?
Ouais, non, c'est vrai. Julien, il a cette faculté à être très droit. En fait, c'est quelqu'un qui a énormément de principes et il est fier de ne pas en déroger. Tu vois. C'est-à-dire que c'est plus important pour lui de rester fidèle à sa ligne conductrice, à sa ligne de conduite, que de s'adonner à un plaisir ponctuel, en plus à l'étranger. Tu vois, il aurait pu se dire 10 000 fois, personne n'en saura rien, je peux faire ce que je veux, et quand je vais revenir en France, c'est tout. Ce sera comme si rien n'était arrivé. Il l'a jamais fait, hein. Pourtant j'ai essayé. Hein.
C'est pas vrai. Non, mais je le répète, c'est vraiment propre à moi. C'est que quand je suis dans cet état-là, je sais que je ne vois que par celle qui est en face. Enfin, que par celle que j'aime. Après, c'est propre à chacun, je pense. Donc, peut-être que Hugo va nous dire ce que lui pense. Mais...
Non, moi j'ai essayé de d'être comme ça aussi. Enfin, au début, je l'étais. C'est-à-dire, quand j'étais plus jeune, tu sais, quand c'était premières amourettes, tes premiers amours même, on peut vraiment le dire. Je pense que tu te focalises sur la personne parce que t'as envie de tout donner à la personne. T'as envie de donner le meilleur de toi-même, t'as envie de répondre à ses attentes, de ne pas la décevoir, comme le disait Julien. Et ça, tu te retrouves à te plier en quatre pour la personne. Surtout, moi, j'ai une personnalité où j'aime bien aussi me rendre utile, t'sais, être utile aux autres. Donc du coup, c'était encore pire avec ce genre de relation. Et après, quand tu te prends aussi peut-être des retours de bâton ou des déceptions, toi, dans l'autre sens, où tu te dis, moi, je donne, mais je reçois pas énormément. Ou finalement, ce que je donne, c'est pas réceptionné en face comme quelque chose d'exceptionnel, c'est de l'acquis. Donc tu te dis, en fait, mes efforts, c'est pas vraiment du bonus pour elle, c'est juste, c'est normal que tu fasses ça. Donc après, tu peux aussi avoir des déceptions amoureuses, etc. Et au fur et à mesure, moi, de mes expériences, de mes relations, je me suis ouvert, en fait, à me dire que t'as beau être avec une personne, tu pourras jamais empêcher les yeux de regarder, tu pourras jamais empêcher les autres de venir t'aborder, que ce soit moi ou ma partenaire, tu vois. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est on n'est pas enchaînés l'un à l'autre. Il n'y a pas de contrat de propriété. On n'est pas la propriété de quelqu'un. Donc pour moi, la possessivité, ça n'existe pas. La jalousie, ça n'existe pas. C'est juste, en fait, si tu as envie de rester avec moi, tu ne dérogeras pas aux quelques règles qu'on a convenues ensemble, même si ce n'est pas forcément les mêmes règles qu'une relation conventionnelle. Tu vois. Moi, je pourrais accepter, je pense aujourd'hui, d'avoir une compagne qui couche avec quelqu'un d'autre. Ça ne me dérangerait pas du moment que je sais que c'est moi son port d'attache. Tu vois ce que je veux dire? À l'inverse, ça m'embêterait, par exemple, qu'elle me trompe et que son comportement vis-à-vis de moi le change. C'est-à-dire que ça implique trop de conséquences.
Mais ça, c'est un autre débat. Hein. C'est
non, genre, bien sûr, mais non. Ça rejoint un peu la question surtout, initiale. Ouais, est-ce qu'on peut regarder, mais on peut aller plus loin.
Je dis pas ça, c'est surtout que c'est est-ce que si tu te fais tromper, tu veux le savoir ou pas?
Du moment si que je le sais
la
pas,
personne ne change pas son comportement, finalement, c'est comme si, entre guillemets, elle n'avait rien fait.
Oui, c'est vrai. Sauf si elle te ramène une MST à la maison, quoi.
Ah non, voilà. Mais c'est pour ça, oui. Juste, c'est vrai que pour la question, c'est que je pense que c'est propre à chacun. C'est soit tu as les œillères, mais c'est pas parce que on te les impose, c'est parce que tu les mets, parce que tu aimes trop ta moitié. Mais je pense que maintenant, on peut regarder sans croquer, en fait.
Et c'est pas un manque de respect, tu vois. Genre, quand t'es à la plage, tu vois des gens en maillot de bain, voilà. On te bombarde tous les jours sur des réseaux sociaux des gens à moitié nus, que ce soit des hommes ou des femmes, parce qu'on est dans l'ère de la muscu, on est dans l'ère du fitness. On va pas fliquer tout le monde à chaque fois parce que t'as regardé un profil d'une femme, que t'as liké une photo d'une femme ou d'un homme à l'inverse, c'est tout.
Et puis juste aussi, c'est que du moment que la personne, même s'il n'y a pas forcément que t'es amoureux ou que ce soit, du moment que la personne t'apporte ce dont tu as besoin, tu peux en avoir une ou deux, ça va pas forcément t'envoyer vers elle ou tu vas pas déroger, tu vas pas aller droit ou à gauche si la personne te comble de quelque manière que ce soit.
Je suis assez d'accord avec vous là aussi, mais c'est en fait pareil que toi. Mais moi, c'est quand j'étais aussi jeune, j'étais en couple et je ne voyais que par lui, mais c'était tellement passionnel que ça en devenait hyper toxique. Et pour rien au monde, je voudrais revivre ça. Alors que parfois, je me dis, mais est-ce que j'aimerais quelqu'un plus que lui ? C'est un autre débat aussi, mais c'est vrai que je pense que là, aujourd'hui, à mon âge, pas si vieille.
Ne rentre pas sur ce terrain-là, s'il te plaît.
Non, mais c'est vrai que c'est plus quelque chose qui me fait envie. Et vous pouvez regarder les hommes sans vous demander si vous êtes toujours amoureux de votre mec ou de votre meuf, ça ne change rien. J'ai envie d'en lire une, tu peux ?
Vas-y.
Alors, si elle n'est pas intéressante, je change. Oui, je fais ce que je veux. Est-ce que vous préférez une femme entièrement épilée ou vous vous en fichez ? Bon les gars, désolé de vous déranger en pleine écoute, mais il s'avère qu'on a bien trop parlé avec les garçons et que l'épisode dure vraiment 1h45, donc je me suis dit qu'on allait faire deux parties. Donc la première partie s'arrête maintenant pour vous, mais promis, la deuxième partie arrive très très vite en épisode bonus. J'ai trouvé les réponses des garçons vraiment pertinentes, donc j'espère que c'est votre cas aussi. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast si vous l'aimez, et surtout n'hésitez pas à me faire vos retours en DM Insta, à partager en story. Je reposte à chaque fois et ça me fait vraiment très plaisir de partager avec vous par rapport au podcast. Et pareil, les garçons ont envie d'avoir un peu vos retours sur l'épisode. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et moi, je leur transférerai. Sur ce, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.